Donc, comme vous le savez, on replonge dans le livre d'Osée, encore une fois. Et nous arrivons, je ne vais pas dire qu'on arrive à la fin, mais ça s'en vient. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans le chapitre 13, donc des versets 4 jusqu'au verset 11. Verset 4 jusqu'au verset 11. Donc nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais « Donne-moi un roi et des princes ». Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous venons aujourd'hui à un passage solennel de la prophétie d'Osée. Israël, le peuple choisi de Dieu qui avait expérimenté la délivrance miraculeuse de l'Égypte, qui avait goûté à la fidélité de l'Éternel dans le désert, s'est détourné vers les idoles et s'est détourné vers des alliances humaines. Et dans ce texte, Dieu se révèle à nouveau comme le seul vrai sauveur, mais aussi comme le juge qui frappe son peuple parce qu'il l'a oublié. Le message est clair ici. Rejeter Dieu comme sauveur et comme roi conduit inévitablement à la ruine. Et ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël, c'est aussi notre combat aujourd'hui. Dans une société qui glorifie l'autonomie et qui refuse la seigneurité et la royauté de Christ, notre Sauveur. Comme l'affirme notre confession de foi au chapitre 8, au paragraphe 1, nous lisons, « Il a plu à Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d'établir le Seigneur Jésus, son Fils unique, selon les termes de l'alliance faite entre eux deux, comme médiateur entre Dieu et l'homme, prophète, prêtre et roi, chef et sauveur de son Église, héritier de toutes choses, juge du monde. Il lui a donné de toute éternité un peuple qui soit sa postérité et qu'il rachètera en temps voulu, l'appelant, le justifiant, le sanctifiant et le glorifiant. Jésus fut établi médiateur du peuple de Dieu avant la fondation du monde. Par l'alliance de rédemption, il a exécuté sa médiation dans l'histoire par la rédemption et poursuit son œuvre en assurant le salut à son peuple. Il assure le salut à son peuple. Et le salut n'est donné ni à aucun Dieu, ni par Marie, ni par qui que ce soit, mais c'est en Jésus seul. Israël avait rejeté son vrai roi. Mais nous, qui sommes dans le siècle présent, posons-nous cette question capitale. Vivons-nous soumis au règne de Christ? Ou cherchons-nous encore des rois ou des idoles à notre image? Donc j'ai trois points à développer. Mon premier point, des versets 4 au verset 5, le rappel du seul vrai sauveur. Donc nous avons lu des versets 4 au verset 5. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Cette expression renvoie directement au Décalogue. En Genèse 20, verset 2, nous lisons « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Dieu rappelle son identité et il rappelle aussi sa fidélité, qu'il a toujours été là pour son peuple. Il est même le Dieu, ce seul Dieu-là qui a libéré Israël, son peuple, de l'esclavage. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Israël n'a jamais eu d'autre sauveur. Dieu se présente comme le Dieu de son peuple, pas seulement comme un être suprême, mais le Dieu de l'Alliance. Et Israël est lié par alliance à son Dieu, par une relation d'amour et une relation de fidélité. Et Dieu, en rappelant son titre d'Éternel et de Libérateur, est en train de confondre l'ingratitude d'Israël. Parce qu'Israël a été ingrat envers le Dieu de l'Alliance, ce Dieu-là même qui l'a libéré du pays d'Égypte, qui l'a libéré de la servitude. Car oublier un tel bienfaiteur, oublier un tel sauveur, c'est renier à son propre salut. Et c'est ce qui nous emmène à nous examiner sur notre salut. Chaque croyant doit se souvenir que son salut ne repose pas sur lui-même. Notre salut ne se repose pas sur nos œuvres, sur nous-mêmes, mais sur le Dieu qui s'est révélé et lié à nous par Jésus-Christ, notre seul et unique sauveur. Et nous lisons dans ce verset, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Et nous voyons ici cette exclusivité du salut, l'exclusivité de cette relation entre le Seigneur et son peuple. Parce que le verbe connaître, en hébreu qui signifie yada, ici, ne signifie pas seulement une connaissance intellectuelle. Il exprime une relation personnelle et une relation exclusive entre Dieu et son peuple. Nous voyons ici l'intimité de cette relation entre Israël et son Dieu. Israël ne devait avoir aucun autre Dieu dans sa vie. Et dans la parole de Dieu, dans sa propre parole, Dieu déclare son exclusivité absolue comme sauveur. Nous lisons en Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Dieu est éternel, à part lui, il n'y a point de sauveur, ni de libérateur. Personne ne peut s'opposer à ses décrets, ni s'opposer à ses œuvres. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons en Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Les Juifs ne prévoyaient aucune place pour Jésus dans leur cœur. Ils rejetèrent Jésus. Ils crucifièrent Jésus. Mais Dieu le ressuscita des morts et le glorifia dans le ciel. Christ est indispensable car il n'existe aucun salut en dehors de lui. Aucun. Il est le seul sauveur. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes en vue du salut. Et c'est par ce nom seul que nous devons être sauvés. Aucun roi, aucun prophète, aucun ange, ni même Marie, ni même des idoles quelconques, des créatures, ne peuvent nous sauver. Seul l'Éternel est sauveur, et en Jésus-Christ, cette vérité est pleinement révélée. Le cœur humain est tenté de multiplier des sauveurs, que ce soit dans la réussite, que ce soit dans la dépendance des hommes à des choses éphémères de ce monde. Dieu seul sauve de l'esclavage du péché et de la mort. Pour l'Église, proclamer l'exclusivité de Christ est un acte de fidélité dans un monde, comme on peut dire, pluraliste. Un monde qui n'a pas que Dieu. Un monde qui compte sur l'homme, qui compte sur la créature au lieu du Créateur. Un monde qui se définit comme poly, parce qu'on parle aujourd'hui de polyamour. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve. Un seul qui nous donne la vie éternelle. Et dans la suite des versets, nous lisons que je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Nous voyons aussi cette fidélité de Dieu dans le désert. Le désert appelle le temps de l'épreuve et de la dépendance totale. Parce que dans cette difficulté, dans cette épreuve, ce peuple-là dépendait totalement de Dieu. Israël n'avait rien pour survivre. Dieu seul pourvoyait, pourvoyait pour la manne, pour l'eau, pour tout, pour le rocher, pour la nuée. Dieu connaît Israël, c'est-à-dire qu'il prend soin de lui comme d'un époux, comme d'un père, comme d'un enfant, comme d'un berger. Et ici, le désert est cette typologie qui révèle le cœur du peuple. Nous lisons en Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je relis. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est profond. Christ lui-même est passé par le désert. Christ. En Matthieu 4, versets 1 à 11. Il est passé dans le désert, mais sans oublier son Père. sans oublier Dieu son Père. Là où Israël a failli, Jésus a triomphé. Et Jean Calvin note justement que le désert était une école où Dieu voulait enseigner à Israël que toute vie dépend de lui seul. Toute vie dépend de Dieu. Que ce soit dans le désert, parce qu'on peut dire qu'il y a différents déserts, des épreuves qui sont difficiles, qui sont pénibles, comme dans les moments qui peuvent être des moments de joie et de paix. Mais dans ces moments, Dieu reste notre seul sauveur. Et nous devons respecter et vivre selon ses commandements. C'est vrai que les épreuves, aussi difficiles qu'elles puissent être, peuvent nous faire tourner vers les hommes, vers des idoles aussi, en fait, en forme d'hommes, pas seulement des objets, vers une dépendance qui puisse être à l'encontre de la parole de Dieu. Mais ici, nous voyons que Dieu, même dans la difficulté, dans l'épreuve, il reste le Dieu vivant, ultime, et le seul qui peut nous sauver. Dieu nous conduit aussi dans des déserts spirituels pour nous apprendre la dépendance. Quel que soit le désert que nous traversons, Dieu veut nous apprendre cette dépendance-là, que nous puissions dépendre à 100%, j'ai envie de dire à 1000% de lui. Parce que notre nature est tellement faible, elle est pécheresse. Parce que nous avons ces inclinaisons-là vers des choses qui ne glorifient pas Dieu, naturellement. Mais nous avons besoin de nous rappeler et de ne pas oublier ce Dieu-là même, qui nous aime tant. Ce Dieu-là qui a toujours été fidèle. Et ce Dieu-là qui restera fidèle jusqu'à la fin des temps. Et le danger n'est pas dans le désert, mais dans l'abondance qui suit. Quand nous oublions celui qui nous a nourris dans le désert. Quand on sort du désert, des fois c'est la joie, des fois c'est l'abondance. C'est la paix. Parce que nous savons que Dieu a été là et il a été fidèle. Mais le danger, c'est d'oublier celui qui nous a secourus. Le danger, c'est d'oublier celui qui a été là du début jusqu'à la fin et qui sera toujours là. Et là, la prospérité devient pour nous un danger. Mais soyons vigilants, restons focus, comme on dit, à celui qui nous donne la vie éternelle et celui qui nous sauve. Mon deuxième point, l'orgueil qui mène à l'oubli de Dieu, les versets 6 au verset 8. Nous lisons, « Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés, leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme un ours à qui l'on a enlevé ses petits. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. » C'est violent, hein, comme image ici. Et là, au verset 6, on voit bien le danger spirituel de l'abondance. Israël est passé du désert de dépendance totale, comme on a vu au verset 5, à la terre promise, pleine de ressources. La prospérité matérielle a conduit Israël à l'orgueil. Le mot hébreu traduit par rassasié ici exprime une satiété, mais qui devient comme une source de négligence spirituelle. Et c'était tellement rassasié, comme on dit, plein, qui sont devenus négligents spirituellement. Ils se sont refroidis. Ils n'avaient plus ce zèle parce qu'ils avaient, Ils étaient sortis du désert et ils vivaient dans l'abondance et dans la prospérité. Mais au lieu que l'abondance les pousse à la reconnaissance, elle les a conduits à l'orgueil et à l'oubli de leur Dieu. La racine du péché ici, leur cœur qui s'est enflé. C'est la racine du péché. Littéralement, cet enflé, on peut dire, s'est élevé. On parle d'orgueil. Et nous voyons que l'orgueil est le moteur de l'idolâtrie aussi. Nous lisons en Deutéronome 8, versets 11 à 14. Deutéronome 8, 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi. Et ici, le peuple d'Israël devait être vigilant et se souvenir de cet avertissement de Moïse. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi. C'est aussi un avertissement pour nous. À la sortie du désert, lorsque nous allons mieux, nous allons bien, sous différentes formes, que ce soit financière, émotionnellement, ainsi de suite. Mais gardons-nous d'oublier ce Dieu-là qui a été présent, qui nous a libérés. Ce Dieu-là qui nous a secourus dans les moments difficiles. La prospérité pourrait conduire à l'oubli. Et l'oubli à la désobéissance. Augustin remarque avec raison, dans ses confessions, c'est lorsque l'homme est rempli de bien qu'il oublie d'où vient le don. Parce que le don, c'est Dieu qui nous donne le don, personne d'autre. C'est lorsque l'homme est rempli de bien qu'il oublie d'où vient le don. Mais tout bien vient de toi, ô Seigneur. Et se détourner de toi, c'est se détourner de la source même de la vie. Dans nos contextes, dans notre contexte moderne, dans nos sociétés modernes, ce danger-là est encore plus grand. Le confort matériel, la réussite, la sécurité sociale, tout cela peut gonfler notre cœur et nous emmener à oublier que c'est Dieu qui pourvoit à toutes ces choses. C'est Dieu qui pourvoit un emploi. C'est Dieu qui pourvoit toutes nos ressources. Le souffle de vie, c'est Dieu. Quand nous levons le matin, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est regarder nos écrans, ainsi de suite. Mais la chose à faire souvent, c'est juste de dire merci Seigneur, parce que je suis debout, je suis en pleine santé, je respire. Vous ne savez pas le nombre de personnes, je vais éviter les statistiques, mais chaque matin, il y a un nombre important de gens qui meurent, qui décèdent. Ça peut être des avortements, ça peut être des assassinats. Mais du moment où nous nous réveillons, rendons grâce pour ce souffle de vie, parce que nous pouvons encore parler. Nous pouvons encore voir devant nous notre époux, notre épouse, nos enfants. Ça paraît peut-être rien, mais c'est beaucoup. Amen. Et la deuxième partie du verset 6, nous lisons qu'ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié. La conséquence inévitable de l'orgueil est l'oubli de Dieu. L'oubli de Dieu. L'oubli n'est pas un accident de mémoire, mais c'est un choix spirituel que nous faisons. Une volonté de vivre sans Dieu et sans référence à Dieu. Oublier Dieu, ce n'est plus se souvenir de son bienfait premier, c'est-à-dire la délivrance du péché. C'est comme si un malade oubliait le médecin qui l'a guéri. J'imagine que lorsque vous accouchez pour la première fois, vous n'allez pas oublier la sage-femme qui était là. Je pense qu'elle est là, elle est présente dans votre esprit. Nous n'oublions pas, nous ne pouvons pas oublier Dieu. Celui-là même qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle, en son Fils Jésus-Christ. Et Jean Calvin note que l'oubli de Dieu est la racine de toute idolâtrie. Car lorsqu'on écarte le vrai Dieu, il faut nécessairement se fabriquer une idole. Donc remplacer Dieu. Quand nous oublions Dieu, ce n'est pas une neutralité. C'est déjà une idolâtrie. Lorsque nous décidons, Seigneur, je suis fatigué, je crois que je vais prendre une pause. Je vais arrêter de prier, je vais arrêter d'aller à l'église. Mais c'est déjà une idolâtrie parce qu'on se tourne vers soi. C'est plus vers Dieu qu'on se tourne. C'est vers soi-même qu'on se tourne. Et c'est déjà une idolâtrie. Une vie qui ne cultive pas la mémoire des bienfaits de Dieu glisse tôt ou tard vers une indépendance spirituelle et un jugement certain. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 7 et dans les versets 8. Osée décrit la justice divine avec trois images animales qui sont saisissantes. Nous avons un lion, symbole de puissance, écrasante, et de jugement irrésistible. Nous avons une panthère qui épie. Et ça, c'est l'image de la vigilance divine. Que rien n'échappe à ses yeux. Un ours privé de ses petits. Je ne sais pas, vous pouvez voir dans les films, lorsqu'on ravit un peu les enfants d'une ours, mais comment elle est en furie. Et c'est l'image d'une colère violente et incontrôlable contre ce qui menace sa progéniture. Et Dieu n'est pas un spectateur impuissant face à l'oubli de son peuple et à l'ingratitude de son peuple. Il se lève comme un juge redoutable et ces images nous choquent, mais elles révèlent la gravité du péché d'Israël. Oublier Dieu, c'est mépriser son alliance et s'exposer à une justice qui est implacable. Lorsque l'âme oublie son sauveur, elle s'expose à être dévorée par les bêtes de ses passions. Être dévorée par ses propres idoles. Mais si elle demeure en Dieu, c'est lui qui dévore le péché et non l'homme. Ces images rappellent que Dieu n'est pas seulement amour tendre. Notre Dieu est tendre, notre Dieu est amour, il est fidélité aussi. Mais sa justice est sainte, elle est sainte sa justice. Pour nous croyants, ce jugement nous rappelle aussi ce que Christ a porté à notre place. Sur la croix, Jésus a subi la déchirure pour que nous soyons épargnés. Israël a oublié son Dieu, mais Jésus n'a jamais oublié son Père. Même dans l'épreuve ultime. En Jean 17, verset 4, nous lisons « Que je t'ai glorifié sur la terre, J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Sur la croix, en Matthieu 27, 46, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, le Fils a porté le jugement qui revenait sur un peuple oublieux. Un peuple qui a oublié son Sauveur. Il a été dévoré par la mort pour que nous soyons rassasiés de la vie éternelle. En Christ, nous trouvons la victoire sur l'orgueil et l'oubli, car l'Esprit Saint grave en nous la mémoire du salut. Ne laissons pas nos bénédictions devenir des pièges. Cultivons une reconnaissance quotidienne. Cultivant une reconnaissance quotidienne. Nous lisons au psaume 103, les deux premiers versets. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse sans saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Recentrons nos vies sur Jésus, afin que notre abondance devienne une louange et non un oubli. Mon troisième point, le jugement final quand Dieu retire le roi, des versets 9 au verset 11. Nous lisons, « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Où donc est ton roi, qu'il te délivre de toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. Le diagnostic divin ici est sans appel. C'est la ruine d'Israël. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Littéralement, le texte dit, tu t'es détruit toi-même, Israël. Tu t'es détruit toi-même, Israël. Et l'autodestruction spirituelle est une conséquence du rejet de Dieu. Quand on parle de l'autodestruction, c'est que lorsque on se détourne de Dieu, que nous vivons nos passions, parce que dans la parole de Dieu, on nous dit que nous nous sommes abandonnés à nos passions et nous nous auto-détruisons. Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous allons dans des passions qui n'honorent pas notre Dieu, nous nous auto-détruisons. Et Dieu se présente pourtant comme celui qui pouvait aider ce peuple, celui qui pouvait aider Israël. Il n'a jamais cessé d'être disposé à sauver, mais le peuple a choisi de se tourner ailleurs. Israël n'a pas été brisé par la puissance de ses ennemis, mais par son propre éloignement de Dieu. Il a choisi de s'éloigner de Dieu. Et nous lisons verset 10. Où donc est ton roi? Où donc est ton roi? Et Dieu rappelle ici la demande d'Israël dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, nous lisons, l'Éternel dit à Samuel, le verset 7, je vais lire le verset 7 de 1 Samuel 8. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est eux qui ont décidé de rejeter leur Dieu. Et nous voyons bien que ce désir exprimait un rejet de Dieu comme roi suprême. Et Dieu leur concéda un roi. Dieu leur concéda un roi, mais leur idole leur roi créature allait se révéler incapable de les sauver. Et ici, le Seigneur les confronte. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Une ironie amère qui souligne la vanité des idoles humaines, parce qu'ils sont incapables de sauver. L'homme qui veut régner sans Dieu devient esclave des puissances du monde et subit le jugement qui vient de la colère divine. Au verset 11, nous voyons un jugement qui vient de cette colère-là. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. C'est vrai qu'ils ont demandé un roi. La royauté n'était pas mauvaise en soi. Dieu avait prévu David et surtout Christ comme roi parfait. Mais le motif du peuple était mauvais. C'était de remplacer Dieu. C'était le motif. Ils voulaient un roi, mais ils voulaient remplacer le Dieu de l'Alliance. Dieu leur accorde donc un roi, mais dans sa colère. C'est dans sa colère, non comme une bénédiction, mais comme un jugement. Et il annonce, je te l'ôterai dans ma fureur. Ce qui s'accomplira lors de l'exil, où Israël perdra son autonomie et sa dynastie royale. Augustin souligne que quand Dieu donne dans sa colère, c'est pour que l'homme apprenne par expérience amère que nul don n'est bon sans celui qui le donne. Dieu retire ce qu'il a donné afin que l'homme comprenne qu'il n'y a de roi véritable que le Christ. Parfois, Dieu permet que nos idoles prospèrent pour un temps, afin que nous goûtions à leur amertume. C'est ça. Ce que nous croyons être une bénédiction peut être en réalité un jugement, si nous le désirons plus que Dieu. Tout dépend. Nous voulons tellement de choses dans ce monde, dans le siècle présent. Tout nous est accessible, mais est-ce que tout nous est utile? Le danger pour nous, c'est que ces choses prennent la place de Dieu. Israël a demandé un roi, c'est vrai, mais Israël voulait remplacer le Dieu de l'Alliance. Et souvent, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu tarde souvent à nous répondre. Parce qu'il nous connaît tels que nous sommes. La recherche d'un emploi peut être aussi pénible. Ça peut prendre des années. On peut se décourager. On peut pleurer aussi. On peut avoir un sentiment de se dire peut-être qu'il se passe quelque chose avec moi, mais non. Mais c'est souvent un désert. On est tous passés par là, la recherche de l'emploi. Le Seigneur nous demande de ne pas l'oublier dans ces moments, de nous reposer, que ce soit dans la recherche d'emploi, que ce soit dans les conflits que nous avons avec nos frères et sœurs. Que ce soit dans notre marche chrétienne, il y a des hauts et il y a des bas. Le Seigneur est notre seul sauveur. Et nous avons besoin de nous rappeler ses bienfaits, de ne pas être oubliés de ce qu'il fait pour nous. Parce que le piège, c'est que du moment où on sort du désert, et qu'on vit la plénitude de notre foi, que nous puissions vivre ces bénédictions, le danger pour nous, c'est qu'on remplace cela par nos idoles. C'est tout un avertissement pour nous. Israël a perdu ses rois. Et aucun d'eux n'a pu le sauver. Mais Dieu avait promis un roi selon son cœur en 2 Samuel 7. Qui ne serait pas donné dans la colère, mais dans sa grâce. Jésus-Christ est ce roi. Non pas un roi choisi par le peuple. Jésus-Christ n'a pas été choisi par le peuple. Mais il a été choisi par Dieu. Il a été établi par Dieu. Sur la croix, il a porté la colère de Dieu pour notre idolâtrie et pour notre oubli. Là où Israël a entendu « Je t'ôterai ton roi », l'évangile proclame en Matthieu 21, verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Christ est le seul roi qui ne peut être ôté. Son règne est un règne qui est éternel. » Et nous lisons en Jean 10, verset 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Amen. En conclusion et application, ces versets d'Osée, dans Osée 14, les versets 4 à 11, nous offrent un avertissement solennel. Israël a oublié son Dieu, se fiant à ses propres forces et à des rois humains. Et cela a conduit à sa ruine. Mais pour nous, l'Évangile proclame que le roi parfait est venu. Jésus-Christ, le seul sauveur qui ne peut nous être ôté. Donc, que nous enseigne ce message? Premièrement, c'est de reconnaître Dieu comme notre seul et unique sauveur. Comme Israël, nous sommes tentés de chercher le salut ailleurs. Israël a oublié son Dieu. Mais nous, souvent, nous sommes tournés aussi vers les choses de ce monde. La réussite, la prospérité, les leaders humains. Et Dieu nous rappelle, au verset 4, « Il n'y a de sauveur que moi. » Chaque fois que nous plaçons notre confiance dans les ressources humaines ou matérielles avant Dieu, nous imitons Israël. Prions pour un cœur qui se tourne toujours vers Christ, même dans l'abondance. Deuxièmement, nous devons cultiver la gratitude dans l'abondance. L'orgueil, comme nous l'avons vu dans les versets 6 à 8, l'orgueil naît souvent de la prospérité. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin et oublier le Dieu qui pourvoit. Dans nos vies modernes, remplies de confort et de sécurité, prenons le temps de remercier Dieu quotidiennement. La gratitude protège notre cœur de l'oubli et de l'idolâtrie. On peut tenir un journal de reconnaissance, par exemple. Ou partageons avec nos familles ce que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Parce qu'il en fait tous les jours. Comme je l'ai mentionné, rien que ce souffle de vie est suffisant pour nous de dire merci. Troisièmement, tournons-nous vers le vrai roi. Le vrai roi. Israël a demandé des rois humains et a été déçu. Nous aussi, nous risquons de placer notre espérance dans des structures, dans des leaders, dans des pasteurs, ou dans des idéologies politiques, qui sais-je. Mais c'est parce que la parole de Dieu nous demande. Dans le tumulte de la société, des crises économiques et politiques, rappelons-nous que Christ est notre roi éternel. Les leaders de ce monde sont passagers. Les hommes de ce monde mourront un jour. Et ces mêmes hommes vont nous décevoir un jour. Faisons confiance à notre Dieu qui est éternel. Lui, il règne sur nos vies, il règne sur nos familles, il règne sur nos églises et il règne sur nos nations. Nos décisions, grandes ou petites, doivent refléter cette dépendance envers lui. Enfin, le texte nous avertit, mais l'évangile nous rassure. Jésus a pris sur lui la colère de Dieu pour nous, pour nos oublis. Dans nos échecs et nos moments d'ingratitude, nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons un sauveur fidèle qui nous ramène à lui en tout temps. Un sauveur qui nous purifie, qui nous lave de nos péchés. Et un sauveur qui nous fortifie. Que ce message nous rappelle de ne jamais oublier le roi que Dieu nous a donné par grâce. Dans l'abondance comme dans le désert, ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Que notre vie, notre travail, nos relations et nos choix reflètent notre dépendance envers Jésus-Christ, le seul qui peut nous sauver. Et répondons avec foi, comme Simon-Pierre, en Jean 6, 68. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous fortifies. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces fois où nous t'avons oublié, dans nos réussites, dans nos victoires, dans notre joie, parce que c'est toi qui es la source de toutes ces choses éternelles, parce que c'est toi qui pourvois à nos vies, c'est toi qui es la fontaine de bénédiction, c'est toi qui es cette source de providence. Seigneur, que nous puissions toujours nous rappeler de tes bienfaits dans notre vie. Que nous puissions toujours nous rappeler de la joie que tu nous donnes et de cette paix qui vit en nous. Cette paix que tu nous donnes lorsque quand tu es monté au ciel, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et cette paix, Seigneur, nous savons que le monde ne peut pas nous la donner. Et nous venons à tes pieds, Seigneur, avec reconnaissance, te dire merci pour tout. Merci pour Christ, pour son sacrifice sur la croix qui nous donne la vie éternelle et qui nous lave de nos péchés. Merci pour ce corps qui a été meurtri pour nous. Merci pour ce sang qui a coulé pour nos fautes. Merci pour tout, Seigneur. Que nous puissions toujours nous rappeler, nous souvenir de tes bienfaits. Chanter tous les matins, la joie de t'appartenir et tous les bienfaits que tu fais dans nos vies et dans la vie de ton Église. Que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur, que nous te prions. Amen.